Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons et terminons notre série concernant la victoire finale. Nous en sommes arrivés à l'étude numéro 18 et le titre c'est « Des promesses ». Pour les intercesseurs. En effet, il y a des promesses qui sont données pour ceux qui ont compris l'importance de l'intercession. Dans l'étude précédente, nous avons parlé des ordonnances divines qui sont faites selon Job chapitre 22, et des règles à respecter pour les faire. Les deux derniers versets de ce chapitre 22 donnent l'une des grandes promesses pour les intercesseurs. Si l'on t'humilie, est-il dit dans Job chapitre 22 versets 29 et 30, si on vous humilie, alors, tu diras, vous direz, lève-toi. Et celui qui a les yeux baissés, qui est capable d'être humble, il, le Seigneur, le sauvera. Il délivrera celui qui n'est pas innocent, qui a compris qu'il était un pécheur, qu'il était au fond condamné, qu'il était coupable, eh bien, celui-là sera délivré par la pureté de tes mains. Job chapitre 22, versets 29 et 30. Chers amis, celui pour lequel nous intercédons, que ce soit n'importe qui, même s'il n'est pas innocent, donc même s'il est coupable, sera tout de même délivré. Rien n'est trop difficile pour Dieu. Il n'existe aucune situation que la puissance miséricordieuse de Dieu ne puisse changer en bien. Mais Dieu œuvre à travers la prière de la foi. Il doit avoir des croyants qui sont prêts à donner leur vie pour le ministère de l'intercession, qui est sûrement l'une des meilleures façons de suivre Christ et de lui donner notre vie. Et lui, il donne sa vie qu'il a donnée à la croix, qu'il est mort en donnant son sang précieux pour ses brebis qu'il a sauvées et qu'il désire encore de sauver. Il y a une autre promesse grandiose pour nous qui intercédons, et cette promesse, elle est tout spécialement pour ceux d'entre nous qui combattons dans la prière pour les cas problématiques qui semblent être désespérés, pour ceux qui paraissent ne pas même vouloir être sauvés et qui se laissent volontiers dominer par Satan. Cette promesse, elle se trouve dans Ésaïe, au chapitre 49, versets 24 et 25. Voici ce qu'il est dit. Ce qu'il a pris sera-t-il enlevé à l'homme fort? Et celui qui est justement captif sera-t-il délivré? Car ainsi dit l'Éternel, même le captif de l'homme fort lui sera enlevé, et ce qui a été pris par l'homme puissant sera délivré. Et moi, je contesterai avec celui qui conteste avec toi, et je sauverai tes fils. Alléluia. Regardons un peu ces deux versets où une question nous est posée. La proie sera-t-elle enlevée à l'homme fort? Voyez-vous, le Seigneur poursuit avec cette précieuse promesse ce qui humainement est absolument impossible à première vue. Mais ce qui est impossible pour nous n'est pas du tout impossible pour Dieu. Que même les captifs de l'homme fort, ceux que Satan a en quelque sorte possédés par ses démons, peuvent être délivrés. Alléluia. Car il est dit que Dieu contestera avec celui qui conteste avec toi, mon Dieu, mon Sauveur et Seigneur, et je sauverai tes fils, est-il dit. Dieu nous sauvera malgré nous. Dieu nous donne ici une promesse certaine de délivrance, et cela même pour ceux qui se sont volontairement et délibérément mis sous le contrôle de Satan pour ensuite se rendre compte, un peu trop tard, qu'il les engloutit. Quelle merveilleuse promesse nous avons là pour l'accomplissement de la délivrance des captifs. Chers amis, veuillez, s'il vous plaît, écouter le témoignage d'un pasteur itinérant. Je connais un pasteur itinérant en Allemagne, et étant donné qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout comme il y a 30 ans, les chrétiens, le peu qu'il en reste, ne donnent souvent plus une dîme. Ça se perd. Et en plus, donne de moins en moins des aumônes. Et dans ce cas-là, un serviteur de Dieu doit parfois desservir, comme c'est le cas en Allemagne, 4 à 5 villages. Et ce pasteur, il a tout de même 3 enfants, donc il est marié, et il est tellement exténué le soir qu'il n'en peut plus. Donc, continuer cela pendant des années, ça peut coûter très cher concernant la santé. Mais voilà, il a décidé de servir son Sauveur et Seigneur jusqu'au bout, quitte de raccourcir sa vie de 15 à 20 ans peut-être, mais d'être celui qui brillera, qui recevra des couronnes dans l'au-delà, près du Seigneur. Il y a quelques mois, nous dit ce pasteur itinérant. Écoutez la suite, c'est lui qui parle. Il y a quelques mois, on m'a amené une jeune femme ressemblant exactement à la description du captif de l'homme fort, cette proie légitime de Satan, dont la délivrance semblait absolument impossible. Cette jeune femme, sérieusement impliquée, hélas, dans le satanisme, travaillait comme médium dans un groupe important et demeurait assurément et justement prisonnière de son puissant ravisseur Satan. La première chose à faire pour la libérer a été de chasser les puissants démons qui la possédaient corporellement et qui dominaient sa vie. Mais cela paraissait à première vue être impossible, puisque, voyez-vous, elle refusait de se mettre d'accord avec Dieu, de reconnaître son péché et d'accepter pour elle l'œuvre expiatoire de Jésus. Jésus nous dit dans Matthieu, chapitre 12, versets 25 à 29. Tout royaume qui est divisé contre lui-même sera réduit en désert, et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Alors, comment donc son royaume pourrait-il subsister? Et si c'est par Belzéboul que moi, votre Seigneur, je chasse les démons, vous, je vous demande, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si moi, votre Seigneur, je chasse les démons par l'Esprit Saint de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourra-t-il entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si, premièrement, il n'a pas lié l'homme fort, et alors il pillera sa maison? Quand le prisonnier de Satan se divisera contre lui et qu'il se mettra d'accord avec Jésus-Christ, il pourra être délivré. Puis, la prise de l'homme fort peut enfin être coupée. C'est au nom de Jésus-Christ que les démons sont chassés et leurs biens pillés par le travail de suite et surtout par l'intercession. Mais non seulement cette femme, malheureusement, refusait toute mention de Jésus, mais elle s'y opposait totalement. Elle aurait voulu qu'on l'aide, mais elle ne voulait pas de son aide à lui, de Jésus-Christ. Alors je me suis demandé ce que l'on pourrait bien faire. J'ai donc quitté la pièce où j'avais passé un long moment à m'entretenir avec cette femme si profondément angoissée, et je suis allé dans ma chambre pour prier. Et là, je me suis mis le cas totalement devant le Seigneur. Je lui ai demandé au Seigneur ce que je pouvais bien faire, n'ayant aucun désir de poursuivre ce cas qui me semblait voué à l'échec. Mais voilà que tout à coup, le Seigneur me reprit. Le Seigneur me rappelait que l'amour est toujours gagnant, que l'amour sera toujours gagnant. Alors, je me suis repenti tout de suite parce que je n'avais pas reçu cette jeune femme dans l'esprit d'amour agapé qui, cet amour agapé refuse totalement la défaite. Et cet amour permet de persévérer face aux difficultés et jusqu'au salut de cette âme. Et lorsque j'ai pris cette décision d'aimer cette femme qui était agenouillée là, eh bien, Dieu a miraculeusement rempli mon cœur d'un amour totalement nouveau, d'un amour agapé pour cette femme. Et le Seigneur m'a donné clairement cette promesse qui se trouve dans Ésaïe, chapitre 49, verset 25, où il est dit que même celui qui est justement captif de l'homme fort sera enlevé et délivré et enlevé. Ésaïe 49, verset 25. Au fond, je n'avais jamais osé appliquer cette promesse à ce genre de besoin de délivrance. Mais le Seigneur lui-même l'appliquerait. Je l'ai reçu comme étant en quelque sorte mon épée de l'Esprit-Saint et je suis remonté vers cette jeune femme et là, j'ai prié pour elle. J'ai dit et j'ai redit cette promesse qui est donnée par le Saint-Esprit. Et croyez-moi, la femme a été jetée à terre par de puissants démons qui ont lutté dans son corps physique. Ils ne voulaient pas partir. Mais tout ce que je faisais, c'était simplement de me tenir debout à côté d'elle et de réaffirmer doucement, mais avec autorité. Il n'y a pas besoin de hurler, car les démons ont l'oreille fine, ils entendent. Et j'ai donc réaffirmé certaines promesses formelles qui sont prévues pour la délivrance. Et peu à peu, la lutte a cessé alors que la puissance de l'homme fort a été brisée. Et dans l'espace de quelques jours, cette jeune femme, qui ne supportait pas d'entendre prononcer le saint nom de Jésus, est devenue une croyante bouillante, zélée, née de nouveau et enthousiaste pour servir le Seigneur. Il est évident que dans ces cas de délivrance, des liens aussi profonds, il est donc nécessaire, dans ces cas-là, où il y a des liens démoniaques, des puissances qui lient la personne, voyez-vous, qui en quelque sorte la neutralisent. Il est donc nécessaire, vous le comprenez, que d'autres chrétiens qui sont plus avancés et qui sont remplis d'amour agapé puissent les entourer, les fortifier et les soutenir dans la prière. Et cela, évidemment, prend beaucoup de temps et d'énergie pour se remettre complètement des cicatrices qui sont laissées par un tel mode de vie. Et c'est là que l'intervention est si nécessaire afin que la victoire puisse être définitive quand la puissance de l'homme fort a été brisée dans une vie. Que s'est-il passé ? Lorsque cette promesse a été proclamée pour cette femme démonisée, que s'est-il passé? Sans aucun doute, ce sont des anges guerriers, très puissants, qui se sont levés immédiatement, obligeant l'homme fort à lâcher sa proie. Dieu avait combattu pour elle, selon sa promesse qui se trouve en Ésaïe, chapitre 49, verset 25. Il y a plusieurs années, le Saint-Esprit a visité un orphelinat en Chine. Et ce témoignage-là est également très important. Écoutez la suite. Les enfants ont eu des visions du ciel, pas seulement du ciel, mais également de l'enfer. Et même, ils ont reçu des visions sur ce qui se passe lorsque on intercède pour les pécheurs. Par exemple, écoutez bien, voici ce que des enfants ont vu du combat invisible en réponse à la prière pour un alcoolique invétéré. D'abord, ils ont découvert un mauvais esprit qui encourageait cet homme à boire. Donc, le démon se trouvait à l'extérieur pour l'instant. Et dès que cet homme commençait à succomber à la tentation de se mettre à boire un verre après l'autre, le démon recevait l'autorisation d'entrer au-dedans de lui. Pendant qu'on priait cependant, voilà qu'un ange de Dieu est venu pour obliger l'esprit impur à quitter cet homme. Puis l'homme, libéré de l'aveuglement provoqué par l'esprit impur, est devenu disponible à l'Esprit Saint de Dieu et s'est repenti d'avoir cédé trop facilement au goût de la boisson et de ses conséquences alcooliques. Si l'homme ne s'était pas repenti, eh bien l'esprit impur pourrait revenir plus fort qu'auparavant, et la condition de cet homme serait pire que la première condition, selon Saint Luc, chapitre 11, verset 26. Pourtant, si celui ou celle qui prie continue de prier, alors un ange encore plus puissant est libéré pour obtenir une fois de plus la libération du pécheur. Et une fois de plus, il lui est donné l'occasion de se repentir. Et cela sera important, car si il ne le fait pas, s'il est hypocrite, s'il est lâche, il en payera les conséquences. Voyez-vous ? Mais Dieu, sachez-le, dans sa miséricorde, il nous donne à chacun d'entre nous d'abondantes occasions de nous repentir. Ça a été le cas pour moi. Et je ne pourrai jamais assez remercier mon Sauveur et Seigneur. Je lui dois tout. Néanmoins, le danger demeure que si nous remettons toujours à plus tard notre bonne disposition, voyez, et notre bonne décision, alors vous comprendrez bien que l'occasion, elle peut passer définitivement, où l'Esprit Saint de Dieu cessera de combattre pour nous. Je suis sûr que vous comprenez cela. Car à moins que l'Esprit de Dieu nous appelle, nous ne pouvons pas nous repentir. La véritable repentance, c'est un don de Dieu qui est offert lorsque nous nous répondons totalement à l'appel du Seigneur, lorsque nous répondons sincèrement. Mais si nous évitons de, on peut dire, le tendre appel que nous donne l'Esprit Saint, eh bien, il est compréhensible que la repentance va devenir impossible. Pourtant, lorsque nous prions pour ceux qui sont liés par le péché et que nous utilisons les armes efficaces, il y a des anges qui sont envoyés pour les libérer. Vous comprendrez bien que ce n'est pas à Dieu de faire le premier pas. Qui sommes-nous pour oser croire que nous sommes tellement importants que c'est à Dieu de faire le premier pas. Pas du tout. Nous devons nous humilier, nous devons apprendre à baisser les yeux, comme on dit. Voyez-vous ? Et c'est à nous de faire les premiers pas. Si notre intercession conduit quelqu'un à une profonde repentance, la délivrance sera certaine et même durable. Dieu seul connaît les cœurs de tous ceux pour lesquels nous intercédons. C'est donc à nous de persévérer fidèlement dans la prière et Dieu fera le reste. Oui, Dieu nous appelle. Il nous appelle à monter sur la brèche, non seulement pour quelques personnes, mais même pour des nations. Nous devrions, vous et moi, davantage prier pour le peuple Israël, pour que ces, parce qu'il y a des vrais croyants, sincères, en Israël. C'est un fait. Ils adorent Yahvé l'Éternel, Adonai. Mais c'est à nous d'intercéder pour qu'ils puissent reconnaître que Jésus-Christ, c'est vraiment leur Messie, que l'Esprit-Saint de Dieu puisse leur ouvrir les yeux et les yeux de l'esprit et de l'entendement. Ça, c'est notre devoir. Jésus-Christ désire une Église qui, dans chaque pays, domine au milieu de ses ennemis. Dieu ne peut dominer les forces du mal, ici ou ailleurs, sans ses intercesseurs qui sont et qui se trouvent dans chaque nation. S'il vous plaît, pour ceux qui possèdent l'Internet, veuillez écouter sur www.bibleexplique.ch où vous trouverez plus de 3000 CD, des séries concernant tout le déroulement des prophéties de la fin des temps que nous vivons actuellement, tels que tout ce qui concerne les anges, le ciel, l'enfer, la démonologie et de multiples autres topics, études très intéressantes. Et vous pouvez les écouter gratuitement. Chers amis, je me souviens à nouveau du psaume 110, que Dieu a besoin d'un peuple de bonne volonté pour que sa puissance puisse se manifester dans leur pays. Être de bonne volonté, cela signifie d'être disponible de façon illimitée. Ça, c'est un mot important qui nous fait un peu peur. De ne pas craindre de mettre notre vie en danger si c'est nécessaire. Pour pouvoir voir une Église qui triomphe dans leur pays, dans votre pays. Donc, être un intercesseur, homme ou femme, peut souvent impliquer le don de notre vie pour ceux qui font l'objet de notre travail dans la prière. La plupart du temps, les gens sont ingrats. Je constate que si on donne un Nouveau Testament, si on donne un CD, eh bien, peu de gens acceptent aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans. C'était tout différent. Pas seulement ceux qui acceptent hypocritement. 10 à 20 mètres plus loin, quand il y a une sorte de poubelle, ils jettent ce qu'on leur a donné dans la poubelle. Mais pour être de véritables intercesseurs, nous devons nous identifier à tous ceux pour lesquels nous prions. Prenons le grand Moïse. Moïse a demandé à Dieu d'épargner Israël, sinon que Yahvé l'Éternel l'efface de son livre. Exode, chapitre 32, verset 32. John Knox criait à genoux à Dieu en disant « Donne-moi l'Écosse ou je meurs. » Eh bien, un exemple d'un tel amour pour les perdus se trouve dans le livre des Nombres au chapitre 16. Vous le trouvez au début de votre Bible. Les éléments de base de ce chapitre sont les suivants. Corée et ses rebelles se sont assemblés contre Moïse et Aaron et ont contesté l'autorité de Moïse. La première réaction en apprenant cette insurrection a été de tomber sur sa face et de prier pour eux. Moïse est tombé sur sa face et a prié pour eux. Mais la colère de Dieu contre ces Lévites a été telle que la terre s'est ouverte devant eux et les a engloutis. Tout ce qui appartenait à ces rebelles a donc été détruit à péri. Et le lendemain, figurez-vous, toute l'assemblée des fils d'Israël a murmuré contre Moïse et Aaron. Ils leur ont reproché ce qu'ils ont fait, que pourtant, ils ont bien fait. Voyez-vous, voyez, dans notre temps actuel, le bien, ce qui est bon et bien, va devenir mauvais. Ce qui est mauvais, criminel, va devenir bon. Et donc, le peuple a donc critiqué Moïse et Aaron. Mais relisez un peu le verset 41 du livre des Nombres, chapitre 16. Car tout à coup, la gloire de Dieu est apparue au-dessus du tabernacle, et le Seigneur a dit à Moïse de s'éloigner d'eux pour qu'ils puissent tous les consumer, les détruire. Mais Moïse et Aaron sont tombés encore une fois sur leur face et ont intercédé, je répète, ils ont intercédé encore et encore pour le peuple, car ils ne pouvaient pas laisser mourir le peuple. Et Moïse a dit à Aaron de prendre l'encensoir, de mettre le feu à l'encens et de le porter au milieu de l'assemblée pour l'offrir à leur intention. Et Moïse dit à Aaron, « Prends l'encensoir et mets-y du feu de dessus l'autel et mets-y de l'encens et porte-le promptement, rapidement, vers l'assemblée et fais propitiation pour eux. Car, vois-tu, la colère elle est sortie de devant l'Éternel. La plaie a déjà commencer. Et Aaron le prit comme Moïse lui avait dit, et il courut au milieu du peuple, et il a mis de l'encens, et il a fait propitiation pour tout le peuple. Et il s'est tenu entre les morts et les vivants, et là, la plaie a commencé à s'arrêter. Et il y en a eu tout de même 14 700 qui sont morts de la plaie, outre ceux, évidemment, qui étaient morts dans l'affaire de Corée. Et Aaron retourna vers Moïse à l'entrée de la tente d'assignation, et la plaie s'est arrêtée totalement. Nombre chapitre 16, versets 46 à 50. Oui, la plaie s'est arrêtée. Comment cela? Et pourquoi? Eh bien, voyez-vous, au fond, ces gens qui se sont opposés à Moïse et Aaron, qui ont agi selon les directives de Yahvé l'Éternel, ces gens méritaient être consumés, être détruits. Pourquoi ont-ils été épargnés? Mais tout simplement à cause d'Aaron et de Moïse. Aaron s'est tenu entre les vivants et les morts. Il s'est tenu sur le passage de la plaie mortelle, protégeant ainsi de son propre corps le peuple, tandis qu'il offrait de l'encens brûlant et la plaie a pu s'arrêter. Mettons un peu ceci en pratique pour l'époque dans laquelle nous vivons. Aaron et Moïse étaient des sacrificateurs de la nation d'Israël et leur sacrifice pour le peuple était de l'encens. Or, vous et moi, chers amis, oui, tous ceux d'entre nous qui croyons, nous sommes des sacrificateurs, avez-vous entendu? Non seulement nous sommes des sacrificateurs d'Israël, mais du monde entier. Notez la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 5, jusqu'au verset 9. Chers amis, nous devons offrir l'encens de notre intercession, et cet encens, ces prières, doivent brûler. Ce doit être la prière fervente, une prière qui est pleine de compassion, qui émane du véritable autel d'encens devant le trône de Dieu. À l'heure actuelle, il y a des plaies qui envahissent toute la terre. Oui, honnêtement, nous devons admettre qu'il existe des plaies ressemblant à un jugement, car il y a de nouvelles maladies mortelles qui sont toujours fatales et extrêmement contagieuses, pour lesquelles nous ne trouvons aucun remède. Le terrorisme, en plus, qui guette toutes nos cités, un peu comme un léopard qui guette sa proie, ces terroristes sont toujours prêts à sauter et à déchirer quiconque en sort. Notez Jérémie chapitre 5, verset 6. Donc, l'enceinte est tombée et la destruction pénètre comme un fleuve sur nos tosses et qui se tiendra comme Aaron entre les vivants et les morts. En effet, Dieu cherche ceux qui se tiendront là, non pas en jugeant, non pas simplement en critiquant tous les méchants autour de nous, mais en offrant une intercession fervente, en implorant la miséricorde de Dieu et l'arrêt de la plaie jusqu'à la délivrance et à la conversion des peuples. Ça, c'est notre devoir. Nous ne sommes pas sauvés simplement en nous disant « Merci Seigneur, je suis sauvé, je peux maintenant être tranquille et vaquer à mes nombreuses activités, m'asseoir dans un fauteuil calmement le soir devant ma télévision. » Non, non, non. Vous avez mal compris. Nous ne sommes pas sauvés seulement pour aller dimanche matin éventuellement à l'église. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui vont seulement à Pâques et à Noël. Non, non, non. Nous sommes sauvés pour servir. Autour de nous, il y a des millions qui se perdent pour l'éternité. C'est notre devoir d'essayer de les atteindre. Ça, c'est notre devoir. J'espère que vous avez compris. De la même manière que les douleurs d'une femme qui enfante vont en s'accroissant, vont en augmentant, les jugements des temps de la fin grandissent. Et Dieu a besoin d'un peuple qui est engagé et qui est disponible pour se tenir devant lui, alors que les afflictions s'aggravent au fur et à mesure jusqu'à la grande tribulation de la fin qui vient bientôt. Dans Ézéchiel, au chapitre 9, nous voyons que Jérusalem subira le jugement divin. Mais avant que ne commence ce jugement terrible, un homme vêtu de lin blanc, certains pensent qu'il s'agit de Jésus sous son aspect avant l'incarnation, et c'est lui qu'on voit traverser Jérusalem. Il fait une marque avec l'encrier qu'il portait avec lui sur le front de certaines personnes. Quelles personnes? Eh bien seulement les personnes qui intercèdent contre les abominations qui se commettent dans leur pays. Puis, il est permis à des anges de mort d'avancer, et tous sont tués dans la ville, sauf ceux qui intercédaient activement. Seuls les intercesseurs seront épargnés. Et ça, c'est un fait absolu. Dieu épargne toujours les intercesseurs. Ce n'est que par eux qu'il peut justement ou légalement intervenir sur la terre. Oui, Dieu œuvre à travers la prière dans notre monde. Il doit y être invité. L'histoire se répétera-t-elle? Dieu épargnera-t-il une fois encore, tous ses intercesseurs. Alors que bientôt va tomber le jugement. Cela semble très probable lorsque nous lisons le récit des événements dans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 8, nous avons vu l'autel d'or où sont réunies les prières d'intercession. De cet autel, le feu est jeté sur la terre par de grandes flammes de réveil. Mais en Apocalypse, chapitre 11, notez le chapitre 11, versets 1 et 2, vous pouvez lire « Et il me fut donné un roseau semblable à une verge, et l'ange me dit « Lève-toi et mesure le temple de Dieu et l'autel et ceux qui y adorent et le parvis qui est en dehors du temple. Rejette-le et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations. Et elles fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois. L'autel et ceux qui adorent doivent donc être mesurés et dénombrés. Et le reste du parvis doit être exclu. La signification de tout cela ne laisse aucun doute, c'est-à-dire que ceux qui sont présents devant l'autel d'or et d'encens, sont et seront épargnés, tandis que tous les autres sont laissés au milieu des tribulations. Oh oui, permettez-moi de le répéter encore une fois. Cet autel, c'est l'autel où nous nous rassemblons dans le domaine de l'esprit lorsque nous nous consacrons à la prière fervente. Cet autel du trône de Dieu. Et là, le voile qu'il séparait autrefois de la présence de Yahvé l'Éternel n'existe plus. Nous pouvons maintenant entrer carrément en sa présence lorsque nous offrons des prières d'intercession devant cet autel. De toutes les promesses destinées à ceux d'entre nous qui voulons être des intercesseurs, celle-ci est peut-être la plus irrésistible. Dieu ne nous oblige pas à nous engager dans un ministère de prière. Mais je vous pose la question. Pouvons-nous refuser cette responsabilité à la lumière de ces versets? Je vous le demande. Il y a une histoire sur la moisson. Cette histoire parle de la saison des récoltes en Israël. Elle laisse prévoir la moisson de la fin des temps que nous vivons déjà actuellement. Ces millions de perdus, ces milliards de perdus dans le monde, et quels sont les chrétiens qui la récolteront là-bas? En Israël, la moisson se fait en fin d'été et elle dure environ 40 jours. Et la chaleur à cette époque-là augmente de jour en jour pour devenir accablante dans les 10 derniers jours. Les seuls qui continueront le travail sont ses propres fils, et ceux-ci demeureront fidèles, fidèles dans la chaleur du jour et dans les nuits épuisantes, et cela jusqu'à ce que toute la moisson, celle du champ le plus éloigné inclus, puisse être rentrée, puisse être sauvée. Ceci est une image, les 40 jours de chaleur pendant la récolte nous parlent de la dernière génération, nous parlent de celle de la moisson. À certains endroits sur la terre, il fera entre 50 et 55 degrés de chaleur, une chaleur impossible pour les êtres humains, y compris pour les animaux. Une extraordinaire période et des millions de morts. C'est vrai. Et la chaleur grandissante nous parle de la tension croissante de la dernière génération. Alors que les conflits vont augmenter dans le monde depuis ce qui est appelé le commencement des douleurs jusqu'au début de la tribulation. Cette tension arrive à un maximum dans les 10 dernières années de violence qui vont précéder la fin. Dans la moisson naturelle, c'est la chaleur de l'été qui fait mûrir le fruit. Pourtant, dans ces temps de tension intense auxquels nous nous attendons dans les temps de la faim, il sera impossible pour certains d'attendre, ne serait-il qu'une heure de plus, pour être sauvés. Leur besoin étant tellement intense, il leur faut le message de Christ. Sinon, ils périssent. Ils périssent sans espoir pour l'éternité. C'est sérieux, cela. Et c'est pendant ces dernières années de moisson, dans le champ du Père, qu'il saura quels sont vraiment ses ouvriers fidèles, qui sont vraiment ses amis et ses vrais fils et filles. Il faudra être un fils et une fille dévoués, prenant à cœur les intérêts du Père avant les siens, pour résister jusqu'au bout. C'est là, oui là, le critère de notre filiation, selon l'apôtre Paul, en Philippiens chapitre 2, versets 20 à 22. La plupart des hommes mettent leurs propres intérêts en premier. Oui, c'est ce que nous dit du reste l'apôtre Paul, dans ses versets. C'est d'être profondément concerné, nous devons être concernés par les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cela implique toutes les âmes qui se trouvent autour de nous. C'est très bien d'aller le dimanche matin au culte. C'est même une chose que nous devons faire. Mais est-ce que nous devons nous arrêter là? Sommes-nous sauvés égoïstement que pour nous-mêmes? Oh, je vous demande humblement la question. La moisson, c'est le problème le plus important auquel l'Église doit faire face actuellement. Serons-nous finalement trouvés parmi les travailleurs embauchés, ou serons-nous simplement des sympathisants de la maison de Dieu, des qui ont de la sympathie, qui sont chrétiens de nom, un peu chrétiens dans les bords, ou bien alors prouverons-nous vraiment que nous sommes des fils et des filles par notre intérêt inlassemblable pour toute la multitude qui se meurt autour de nous, qui se meurt dans le monde actuel. Pour cela, il est donc indispensable que nous nous voyons comme étant de ceux qui doivent absolument traverser l'opposition violente de Satan pour pouvoir moissonner le dernier champ de mission de Dieu en travaillant tard dans la nuit des ténèbres et du combat spirituel. Il est donc indispensable que nous fassions don de nos vies au Seigneur de la moisson, soit en y allant, soit en gardant les bagages par les ministères de soutien dans les lignes arrières. Et cela implique une vie de prière, avez-vous compris ? Nous devons être trouvés quotidiennement parmi ceux qui adorent devant l'autel d'or et d'intercession. Cela veut dire que par la grâce de Dieu, et comme l'apôtre Paul, nous devons toujours tendre vers un but plus élevé. Nous devons marcher jour après jour plus près de Christ. L'apôtre Paul a dit que la marque de la perfection est de toujours tendre vers le haut, tendre vers Dieu. Il dit « Je cours droit au but pour le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, je m'active. Nous tous qui sommes, selon les critères divins, parfaits en Christ, pas parfaits par nous-mêmes, mais par Christ, ayons donc ce sentiment-là. Et si en quelque chose vous avez un autre sentiment, eh bien cela aussi, Dieu vous le révélera. Philippiens chapitre 3, versets 14 et 15. Donc, chers amis, la chose importante pour nous en tant que pèlerins et participants de la course, ce n'est pas vraiment la réalisation de la perfection spirituelle, cet idéal très élevé, mais c'est plutôt de constamment aller de l'avant, continuer de lutter afin d'atteindre ce qu'il nous est demandé. L'important, c'est la fidélité dans la persévérance. Même si parfois nous échouons, si parfois nous reculons, mais de toujours nous remettre en question et d'avancer. Nous ignorons ce qui est devant nous, d'accord, ou ce que nous aurons peut-être à traverser entre le moment présent et la venue du Seigneur. Mais nous savons que Jésus nous appelle à une consécration qui ne nous a pas été enseignée dans le confort de nos églises ou devant la télévision le dimanche matin pour écouter le culte tranquillement cafeutré dans un fauteuil. Si nous sommes la dernière génération, de croyants qui marchons sur cette terre avant que le Messie ne vienne établir son royaume à Jérusalem, alors nous sommes aussi ceux qui doivent dominer l'ennemi en le chassant de ses trônes, élevés qui sont créés par Christ et surtout pour Christ. Colossiens chapitre 1, verset 16. Ceux qui accompliront tout cela, ils le font par le sang versé de l'agneau, la parole de leur témoignage, et parce qu'ils n'aiment pas leur propre vie, même jusqu'à la mort. Alléluia. Acceptez de tout donner, pour les intérêts du Père, jusqu'à notre vie. C'est la chose qui suscitera la dislocation finale du royaume organisé par Satan. C'est le péché de l'amour de moi-même qui est à la base de tout son emprise sur moi, sur nous. Avez-vous compris? Satan croit que l'homme est semblable à lui et que pour sauver sa propre vie, sa propre peau, il est prêt à tout renier, à faire n'importe quoi, à trahir n'importe qui. Satan, dans Job chapitre 2, verset 4, a répondu à Yahvé l'Éternel et il a dit « Peau pour peau, et tout ce qu'un homme a, il le donnera pour sauver sa vie. » Job chapitre 2, verset 4, je l'ai pris dans la version allemande, mais c'est pareil dans les autres versions. Jésus ne trahit jamais. Et ceux qui suivent Jésus à travers la tempête des derniers temps vers la paix du millénium ne doivent pas trahir non plus, s'il vous plaît. Nous prenons les nations en faveur de Jésus-Christ. Ça, c'est une guerre très, très réelle. Et notre but doit être en permanence devant nous. Ce but, c'est la venue sur terre du royaume de Dieu dans toute sa splendeur. Les armées les plus meurtrières de Satan, elles sont prêtes à résister à ce transfert d'autorité. Et nous avons chacun notre place dans cette bataille finale qui sera sans aucun doute le terrible combat, le combat le plus dur de tous les temps. Pour terminer cette étude, cette série, sachez, chers amis, que chacun d'entre nous doit trouver la place voulue pour nous par Christ en vue de son retour. Puis nous devons demeurer fidèles à cet appel. il est encourageant de savoir que parfois le plus grand acte d'héroïsme possible, c'est de persévérer avec patience dans ce but. C'est là la signification, c'est là ce qui signifie de se tenir ferme, de rester debout, de rester victorieux. La clé de tout combat spirituel mené par la prière et l'intercession, de toute victoire sur la tentation qui chercherait à nous ébranler, qui chercherait à dominer Satan dans tous les domaines de la foi, et comme le dit notre apôtre Paul, après avoir tout surmonté, s'il vous plaît, tenez ferme. Et si vous et moi, nous tenons ferme, la vérité de Dieu s'imposera et elle fera le reste. Nous désirons que chacun de vous montre la même diligence, la même motivité pour la pleine assurance de l'espérance jusqu'au bout, afin que vous ne deveniez pas paresseux, mais que vous deveniez imitateurs de ceux qui, par la foi et par la patience, hériteront de tout ce qui a été promis. Notez Hébreux, chapitre 6, versets 11 et 12. Donc, ne rejetez jamais, ne rejetez pas loin votre confiance qui a une très grande récompense. Ne rejetez jamais toute votre confiance qui, je répète, a une grande récompense. Car vous avez besoin de patience, c'est vrai, afin que, ayant fait la volonté de Dieu, vous puissiez recevoir toutes les choses qui sont promises, car encore très peu de temps, sachez-le. Et celui qui vient, viendra, et il ne tardera pas. Hébreux, chapitre 10, versets 35 à 37. Chers amis, prions pour terminer ensemble. Oh, merci Seigneur. Merci, merci. Grâce te soit rendue, ô Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés, pour toutes les douleurs que tu as souffertes pour nous. Ô très miséricordieux Rédempteur, ami, et frères, puissions-nous te mieux connaître, t'aimer davantage, te suivre de plus près. Éternel Dieu de tout l'univers, tu nous as jugés dignes, nous, les enfants des hommes, nous, faibles pécheurs, d'être les objets de ton amour et de ta bonté en Jésus-Christ. Tu sais la présomption et l'orgueil qui, malgré tous nos péchés et notre fragilité, habite dans nos cœurs. Tu connais la vanité qui nous élève à nos yeux au-dessus des autres, et tu connais notre peu d'empressement à te servir. Nous te prions maintenant de vouloir te soumettre te soumettre tous nos penchants. Mets donc, s'il te plaît, en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsque il s'est humilié lui-même pour se faire le serviteur de ses frères en les aimant jusqu'à la mort. Aide-nous à servir nos frères et nos sœurs dans son esprit et conformément à son exemple. Et cela aussi longtemps que nous les avons encore avec nous et en tout lieu, jusqu'à ce que, enfin, du service et des fatigues de ce monde terrible, tu nous appelles, tu nous rappelles auprès de toi, dans la céleste patrie pour l'éternité. Amen. Amen. Chers amis, le Seigneur vous aime. Oh oui. Si je vous dis que je vous aime, ce qui est vrai, ce n'est rien. Ce n'est rien par rapport à ce que Jésus-Christ vous aime. Alors, je crois que vous comprenez que notre devoir, c'est de le servir. Puissiez-vous le comprendre. C'est tout ce que je vous demande. Au revoir, mes très chers amis. Le Seigneur me donnera, je prie et j'intercède pour cela, à faire une nouvelle série, une série des plus importantes concernant la sainte lumière divine. Croyez-moi, ça aussi va vous aider à grandir spirituellement, à vous affirmer, à devenir de véritables outils qu'il va aimer. Aimer pour vous donner beaucoup plus que vous demandez. Vous serez étonnés. À bientôt. Au revoir.